Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Nouvelle heure de l'information. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio de la Paix. Condamnation des 26 militants du PPACI, l'OIDH s'invite dans le débat. L'Organisation des droits de l'homme dit être interpellée par la situation. Vous entendrez son responsable des projets et de la formation, Maître Akemel Cristiano. Et puis à San Pedro, un centre d'accompagnement et de soins en addictologie, CASA, pour les personnes usagères de drogue, a été ouvert récemment. Les détails de notre correspondant régional Abel César Cassin dans ce journal. Dans l'actualité internationale, l'Angola va déployer des troupes après l'échec du cessez-le-feu du M23 en République démocratique du Congo. Et enfin, le journal Junior Cardin recevra comme invité de la rédaction Dr Michel Yoboué, membre du groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives. Ils parleront ensemble de la mission des organes de contrôle administratif de l'inspection générale de l'État. Voilà pour le sommaire. La condamnation le 9 mars dernier de 26 militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public continue de susciter des réactions aussi bien sur la toile que du côté des défenseurs des droits de l'homme. Hier lundi, l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, s'est invité dans le dossier. Maître Akemel Cristiano, juriste, responsable des projets et de formation de l'OIDH, explique ici pourquoi cette organisation se sent interpellée par cette affaire.
Nous sommes sentis interpellés par ce dossier parce que nous y voyons une restriction des libertés. Nous pensons que si ces restrictions qui nous paraissent graves ne sont pas corrigées, elles sont de nature à être la cause de graves crises qui pourraient surgir, surtout au cours des élections à venir, élections locales de 2023 et de 2025. La Constitution ivoirienne de 2016, en ses articles 20 et 21, ces dispositions garantissent la liberté d'aller et de venir, d'opinion, de manifestation et de réunion. L'OIDH observe que depuis décembre 2022, il y a une sorte de menace et une restriction sérieuse, pour ne pas dire grave, à la limite, sur l'exercice des libertés suspensionnées. Le jeudi 9 mars 2023, sous le prétexte d'atteinte à l'ordre public et donc de troubles à l'ordre public, 26 de nos concitoyens ont été condamnés à des peines de prison ferme.
Autrement dit, ces restrictions de liberté sont de nature à amener à des troubles dans le pays?
Oui. Je vais dire que les mêmes causes qui sont à l'origine des crises précédentes sont en train de se mettre en mouvement. La Côte d'Ivoire doit faire attention. Attention.
Maître Akemel Cristiano, juriste responsable des projets et de la formation de l'OIDH que vous avez écouté. Il était en ligne avec Soro Adams. La 67e session de la Commission de la condition de la femme, grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, se tient du 6 au 17 mars 2023 à New York aux États-Unis. Cette session offre un moment unique pour forger un avenir numérique positif. C'est dans cette optique que ONU Femmes Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ambassade d'Israël, a organisé hier lundi à Abidjan, Cocody, un panel d'échange autour de la thématique l'innovation, le changement technologique et de l'éducation à l'ère numérique pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. On en parle avec Jean-Claude Mabéa.
Des inégalités entre hommes et femmes en matière numérique sont importantes, a fait remarquer la représentante résidente de ONU Femmes Côte d'Ivoire, d'où l'organisation de ce panel, Antonia Ngabala Sodono.
L'accent que nous avons voulu mettre ici, c'est former les jeunes filles, sensibiliser les jeunes filles quant à l'importance des nouvelles technologies. Comme vous savez, les jeunes femmes sont très peu nombreuses dans ce domaine qui est à dominance masculine. Et ce que nous avons voulu renforcer, c'est l'importance pour elle de s'engager dans ces filières de sciences, technologies, innovation, mathématiques.
Les filles ont donc besoin de modèles aujourd'hui dans le secteur du numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à leur autonomisation, a indiqué la conseillère technique de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. enfants. Docteur Benate Fofana Namizata.
Encourager nos filles à travers des modèles qui sont des femmes leaders. Quand vous prenez professeur Guidi Wanja, qui est la première femme mathématique de Côte d'Ivoire, présenter son parcours devant des jeunes filles, je pense que c'est un moyen de motivation.
Au terme de ce panel, Kwame Grace Sarah, élève au collège Saint-François II de Yopougon, dit avoir tiré profit de ces échanges.
Je retiens qu'aujourd'hui, il nous propose des solutions pour que le monde de la technologie soit plus ouvert aux femmes.
Dans le secteur du digital, Israël offre des opportunités nouvelles aux femmes et aux filles pour leur autonomisation, a révélé Roni Yedidia, son ambassadeur en Côte d'Ivoire.
Et toujours parlons de digital et autonomisation de la femme. Selon les dernières données de l'Union internationale des télécommunications, 57% des femmes utilisent Internet dans le monde contre 62% pour les hommes. Seuls 30% des professionnels du secteur de la science et de la technologie sont des femmes. Les tendances font apparaître une fracture numérique croissante entre les deux sexes, les jeunes filles et les femmes. Pour réduire cet écart, donc, Israël s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire en offrant des opportunités pour l'amélioration de la vie des femmes et des filles. Écoutons donc les explications de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire dans des propos traduits de l'anglais en français.
Israël était un pays qui est très avancé au plan technologique et cette avancée technologique s'applique à plusieurs secteurs, notamment la communication, le secteur agricole, la santé, la nourriture. En tout cas, la technologie s'applique à divers secteurs au niveau d'Israël. Alors, nous travaillons sur la question avec le gouvernement ivoirien ainsi que des start-up ivoiriennes, y compris les Nations Unies, afin donc d'accorder davantage de place à l'implication de la technologie dans tout le processus de développement ici en Côte d'Ivoire. Et pour votre information, du côté d'Israël, par exemple, les femmes occupent à peu près 30 à 40% des places disponibles et nous aimerons en tout cas soutenir la Côte d'Ivoire pour que l'implication de la technologie dans divers secteurs tels que la santé, l'alimentation, la communication soit vraiment effective pour ce pays. Lorsque vous éduquez des femmes, c'est toute une nation que vous éduquez. Alors, nous pensons que impliquer les femmes dans la technologie va être quelque chose d'assez important puisque ça va déjà permettre aux femmes de contribuer au développement de divers secteurs tels que le secteur de la santé, de la communication, de la nutrition et bien d'autres secteurs. On pense qu'il faut vraiment encourager la plus forte implication de la femme parce que si la femme est éduquée au plan technologique, c'est toute la nation qui en bénéficie.
Ensure that women advance in the technologies advances the entire community and the nation.
Vous écoutez l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Roni Yedidia Klein, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabeya. San Pedro a désormais un centre d'accompagnement et de soins en addictologie, CASA, pour les personnes usagères de drogue. Ouvert officiellement le vendredi 10 mars dernier, ce centre géré par l'ONG Aprosam vise une resocialisation des usagers de la drogue. Les détails donc avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
Deuxième centre d'accompagnement et soins en addictologie pour les personnes usagères de drogue en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, le centre de San Pedro entend accueillir les usagers de drogue. Doua Armel, chef de projet Yapadra à l'ONG Aprosam.
Ce centre présentera une prise en charge holistique. On aura un appui psychologique, médical, on aura un service bas-seuil. C'est un service où la personne usagère de drogue a la possibilité de se laver, de resocialiser avec ses amis à travers les jeux ludiques, boire un café, manger. Nous sommes entre 20 et 25 personnes par jour. Mais il faut signifier que depuis le début du projet, nous avions déjà touché près de 1080 personnes usagères de drogue.
Pour Marie Bonnefoy, coordonnatrice générale adjointe à Médecins du Monde, les personnes usagères de drogue méritent une seconde chance.
Il faut cesser de stigmatiser les personnes usagères de drogue. Elles ont des besoins spécifiques en santé. Il faut plutôt les comprendre, ne pas les juger et puis pouvoir les accueillir parmi la population.
Bénéficiant du projet, Messi, un usager de drogue, est désormais conscient du danger que représente la drogue.
Ceux qui étaient dedans avant nous ont dit que ça rendait plus supérieur, ça rendait plus intelligent. Mais au fur et à mesure que les années passent, on voit qu'on est sur une vie qui tourne en rond. J'aimerais pas que mes petits frères ou même mes petites sœurs consomment. En plus, c'est négatif pour la santé, c'est négatif même pour la société.
Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Concours d'orthographe et de lecture à Gagnoa, selon l'enseignante de français et présidente du comité d'organisation, Kwasi Afoué-Aimé. Ce concours, initié depuis 2 ans par le lycée moderne 3 de la ville, a pour objectif l'amélioration du niveau des élèves dans ces deux disciplines. Suivons Kwasi Afoué-Aimé dans des détails. Elle est au micro de notre correspondant régional, Abel César Cassin.
Cela fait déjà 2 ans que nous organisons au lycée moderne 3 de Gagnoa un concours d'orthographe et de lecture. L'objectif, c'est de faire en sorte que les apprenants aient la bonne orthographe et la bonne expression. Cette année sera la 3e édition. C'est un concours qui se passe en plusieurs phases. La phase des présélections, qui est la première étape, qui démarre à la fin du premier trimestre. Alors, les choses vont se poursuivre et là, ça sera l'étape des quarts de finale où nous attendons près de 150 candidats. 96 pour le premier cycle, 60 pour le second cycle.
La finale, c'est quand?
Ça sera autour du 20 mai. Pour récompenser ces enfants, d'abord le CE français, dont l'ensemble des professeurs de français, nous levons une cotisation pour participer à la récompense. À côté de ça, nous cherchons des partenaires, également un parrain. À chaque finale, pour l'instant, nous avons 21 lauréats à récompenser.
Kwasi Afoué-Aimé, enseignante et présidente du comité d'organisation du concours d'orthographe et de lecture à Gagnoa. Et depuis plus d'un an, les bus de la Sotra, société de transport à Bidjanet, desservent les quartiers de la ville de Bouaké. Mais force est de constater que cette compagnie n'a construit aucun hangar pour permettre aux usagers de s'abriter du soleil ou de la pluie. Une situation que déplorent les populations de Bouaké, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Bouaké.
Si l'avènement des bus Sotra à Bouaké est salué par les populations, celles-ci en revanche sont confrontées à une difficulté.
J'imagine que quand il y a quoi à midi, il vient s'arrêter à l'arrêt, au soleil, dans longtemps aussi, sous le soleil, avant qu'il puisse arriver.
Il n'y a pas d'abri, la pluie comme sous le soleil. On a arrêté, ou soit des gars qui vont là, on s'arrête sur les abattams là.
Tu vas t'arrêter à l'arrêt, il fait plus de 40 minutes, 30 minutes, il n'y a pas de bus. Sous le soleil.
De Gonfreville à Dar es Salaam, en passant par Aouyansou, Belleville ou encore Coco, c'est le même constat. Les usagers de la Sotra attendent plusieurs minutes durant, sous un soleil de plomb, le passage des bus.
Ça va au moins 30 minutes, nous sommes là. Et puis, il y a le soleil. On est venu s'abriter ici. Sous un arbre, ne pas que le soleil nous fatigue.
Disons 30 minutes. Nous sommes au soleil, effectivement, nous sommes au soleil. Mais bon, on va faire comment? Puis, il n'y a pas d'autre moyen, donc on est obligé d'accepter. Il n'y a pas d'abri, étant des garçons, bon, on est en Afrique, on est obligé de faire avec. On accepte et puis bon.
Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les clients.
Comment comme ça, mais ça pas bien, mais je sens que t'es sur le soleil.
Ça lui met mal à l'aise parce que tu mets au soleil comme ça, vraiment, c'est pas facile. Imagine, et tu vas passer 30 minutes, le bus n'arrive pas.
Leur appel au secours ne se fait donc pas attendre.
Je demande à ce qu'ils puissent faire des hangars.
Ce cri de cœur est d'autant plus légitime que dans quelques mois, la ville de Bouaké va abriter la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui va drainer du monde. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, l'Angola va déployer des troupes après l'échec du cessez-le-feu du M23 en République démocratique du Congo. Le pays dit qu'il enverra une unité militaire dans l'est de la République démocratique du Congo quelques jours après qu'une trêve qu'il a négociée n'a pas réussi à mettre fin au combat. Un communiqué du bureau du président angolais a indiqué que les soldats seraient déployés pour aider à sécuriser les zones tenues par le groupe rebelle M23 et pour protéger les contrôleurs du cessez-le-feu. Les soldats kényans qui font partie de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont également déployés dans certaines régions. Et puis l'Union européenne vient de lancer une opération d'aide aérienne à destination de la capitale régionale Goma, affirmant que les agences humanitaires seront débordées. Place à présent à l'invité de la rédaction. L'invité de ce jour est le docteur Michel Yoboué. Il est membre du groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives. Récemment, l'inspection générale d'État et les autres organes de contrôle administratif ont annoncé avoir effectué 708 missions de contrôle en 2021. Quelle est la mission de ces organes de contrôle et quels sont ces contrôles d'ailleurs? Ont-ils un impact réel sur la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire? Ces questions, entre autres, les préoccupations préoccupations auxquelles répond Dr Michel Yoboué. Dans cet entretien, il est l'invité de Junior Cardin.
Docteur Michel Yoboué, bonjour.
Bonjour.
Et docteur, l'inspection générale d'État, IGE, vient de remettre son rapport au gouvernement. On voudrait savoir, l'IGE, quelle est sa mission?
En fait, c'est un instrument permettant au chef de l'État et à son gouvernement d'exercer leur légitime pouvoir de contrôle sur la gestion et la bonne marche des affaires publiques. Et donc, c'est un instrument, en fait, de bonne gouvernance au niveau de l'État. Donc, si on veut se référer, disons, au décret qui met en place l'IGE, l'IGE, donc, a une mission d'inspection et d'investigation. L'IGE aussi a des missions d'audit et de prévention des risques. L'IGE a une mission d'évaluation des politiques et des organes publics. Et l'IGE est aussi chargé des études, de la programmation et des statistiques sur tout ce qui est contrôle effectué.
Quel est donc le rapport entre la mission de l'IGE et puis la mission de l'inspection générale au niveau de certains ministères?
En fait, il y a l'IGE, mais il y a aussi d'autres instruments de l'État qui sont les IGM, les inspections générales des ministères. Il faut dire que l'IGR, c'est l'autorité hiérarchique de toutes les autres structures de contrôle et d'inspection. Donc l'IGE est au-dessus de l'inspection générale des ministères. Mais tous les ministères n'ont pas une inspection générale. On a, par exemple, le ministère de l'économie et des finances qui a l'inspection générale des services fiscaux, l'inspection générale du trésor. On a le ministère de la Défense qui compte l'inspection générale des armées et de la gendarmerie nationale. On a le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui dispose de l'inspection générale des services de l'administration du territoire et de l'inspection générale de la police, par exemple. Donc,
et à côté de ces inspections générales, il y a encore le pouvoir judiciaire et législatif. Comment tous ces organes arrivent à travailler ensemble?
L'IGR, comme je l'ai dit, est un instrument entre les mains du chef de l'État et de son gouvernement. Mais il y a le fait que l'IGR joue un rôle qui permet de collecter des données en termes d'inspection ou en termes de contrôle. Mais tout est une question de mission des différents départements de l'IGR. En fait, l'IGE va donc, dans cette mission, faire un rapport de ses activités qui le remet, mais ce n'est pas seulement l'IGE, il y a aussi les IGM qui remettent aussi leur rapport. Mais l'IGE, en fait, n'a pas un rôle judiciaire. L'IGE a un rôle d'inspection et de contrôle, et ses travaux sont remis maintenant dans le cadre d'une collaboration avec les pouvoirs judiciaires, aux autorités judiciaires qui vont continuer la procédure judiciaire.
Et puis, pour revenir donc à l'IGE, quelles sont les voies de saisine?
L'IGE, en fait, dépend directement du président de la République. Donc, l'IGE est saisie principalement par le président de la République, mais elle peut également être saisie par le Premier ministre, les membres du gouvernement, les institutions, les services publics et parapublics, les particuliers, les associations de la société civile. Et l'IGE peut aussi s'auto-saisir. Et dans ce cas, l'inspection générale d'État informe le président de la République de la mission qui en découle. Donc voilà un peu les voies telles que décrites par le décret du 1er août 2018 qui essaie de déterminer les attributions de l'IGE. Voilà.
Et à l'occasion de la remise du rapport de l'IGE à la présidence, donc au vice-président, il y a quelques jours, il a été indiqué que 700 missions de contrôle avaient été effectuées par l'IGE en 2021. Docteur Michel Yoboué, quel est l'impact réel de ces contrôles sur la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire?
Au nombre des missions qui ont été effectuées, bon, selon l'actualité, c'est environ 225 missions de contrôle, parce qu'il y a des missions de contrôle et il y a des missions de vérification comptable qui ont été réalisées. Et au dit des journalistes qui ont couvert l'événement, c'est environ 483 missions de vérification comptable qui ont été réalisées par l'IGE. Et donc, quel est l'impact en termes de bonne gouvernance? C'est ça votre question, n'est-ce
pas? Voilà.
Donc, en termes de bonne gouvernance, cela signifie déjà qu'il y a une action de contrôle en ce qui concerne, disons, la gestion des affaires publiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour qu'on puisse parler de son impact, il va falloir voir quels sont les résultats qui ressortent de ces missions. Les résultats en termes d'utilisation, ça peut être des ressources mises à disposition dans le cadre des affaires publiques, mais ça peut être aussi des résultats sur le bon fonctionnement des différentes structures qui font l'objet, bien sûr, des missions des IGE. Et donc, je pense que c'est déjà un instrument de reddition des comptes, mais il y a une difficulté qui demeure au niveau de la mission des IGE, c'est que tout ce qui est fait au sein de la mission des IGE reste encore confidentiel. Donc cela reste vraiment dans les discrétions du chef de l'État et du gouvernement.
Est-ce qu'aux yeux donc du contribuable, cela ne plombe pas un peu la mission de ces inspections?
Ben, ils ont un rôle administratif, donc ça reste dans dans le cadre administratif. Maintenant, s'il y a des cas, par exemple, de malversation ou des situations dans lesquelles il doit avoir une diffusion, nous, si nous devions regarder avec les yeux de l'aspect civil, on pourrait dire qu'il serait intéressant que l'opinion nationale soit informée des résultats ou qu'il y ait, par exemple, un point de presse et non pas une simple remise, mais qu'il y ait un exposé des résultats, un exposé public des résultats permettant de pouvoir demander des comptes à ceux qui gèrent, disons, les ressources de l'État.
Docteur Michel Yoboué, merci beaucoup.
Ok, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.
Docteur Michel Yoboué était l'invité de la rédaction de ce jour et il répondait aux questions de Junior Cardin. Cet entretien met fin à notre édition. Le rappel des titres. Condamnation des 26 militants du PPACI, l'OIDH, qui s'est invité dans le débat, se dit interpellé par la situation. À San Pedro, un centre d'accompagnement et de soins en addictologie pour les personnes usagères de drogue, CASA, a été récemment ouvert. C'est ce que nous a appris notre correspondant régional, Abel César Cassin. Et puis dans l'actualité internationale, Angola va déployer des troupes après l'échec du cessez-le-feu du M23 en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Radio de la Paix avec la revue de presse pilotée aujourd'hui par Carlos Condé.
Bonjour à tous. La tension monte. Période préélectorale oblige, constate Soir Info. Il invite à laisser libre cours au discours de campagne, mais sans haine ni violence. Et que la loi de la démocratie et de la libre expression